Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. C'est l'hiver avec Sébastien Lantôme. Bonjour.
Salut Baptiste, meilleurs vœux aux auditeurs d'RDWA.
C'est gentil, et tiens, je pourrais leur souhaiter aussi, à vous tous. Et pourquoi pas dans la neige, et c'est de ça dont on va parler un peu, même s'il n'y en a pas des masses hein, quand même là.
Elle se fait tarder un peu, hein.
Se fait espérer un peu.
Elle est venue un peu tôt, mais elle n'est pas restée.
Et là où ça a posé, c'est pas resté?
Bah, y a encore des endroits où ça reste des plaques, mais c'est un peu soufflé. Et c'est quand même pas le niveau qu'on pourrait espérer à cette époque de l'année là.
Sébastien, tu es accompagnateur en moyenne montagne. Ça fait, on est en train de s'enchaîner un peu les émissions ensemble.
Oui, c'est sympa. J'aime bien venir te rendre visite de temps en temps.
Pour parler d'une nouvelle activité, une autre de tes activités qui est de, eh bien, de randonner justement dans la neige. Pourquoi pas avec des raquettes?
Voilà, c'est ça l'idée. On va aller se promener en raquette aujourd'hui, on va mettre nos blousons et on va aller observer ce qu'on peut voir dans la neige.
Alors d'abord, tu pars d'où et on va où?
Les points de départ à proximité, j'en ai trois en fait. Plateau de Beur, Col de Rousset, pour ce qui est d'aller rencontrer un peu des sorties à la demi-journée, aller voir un peu des observations de traces ou observer la neige et le paysage. Et puis après, sur des itinérances, on peut partir de Vallon de Combeau. Et là, on part sur la journée ou sur plusieurs jours. Vraiment, aller se perdre sur les hauts plateaux, là, c'est quand même assez magique. C'est déjà magique d'aller se promener sur les hauts plateaux l'été, mais alors l'hiver, c'est encore plus insolite.
Pourquoi ?
Parce qu'on se retrouve un peu au milieu de nulle part, sur une mer blanche. Et l'outil raquette nous permet d'aller marcher sur l'eau gelée. Et on a une liberté d'itinéraire qu'on n'a pas forcément l'été, parce que l'été, il y a les clôtures, il y a les endroits où il y a de la végétation, où c'est plus compliqué de marcher. Et alors là, tout d'un coup, les possibles s'ouvrent devant nous.
Ça bouche aussi les trous là, un peu craignos qu'il y a sur ces parties-là du plateau. Là. Il ne faut pas tomber dedans.
Il faut quand même savoir où ils sont et éviter de marcher dedans et plutôt les contourner.
Mais on peut presque y descendre du coup. Il y en a certains qui deviennent praticables quand il y a de la neige.
Moi, je sais pas. J'y vais pas. Je suis pas un spécialiste. Faudra demander à un spéléologue. C'est pas ma spécialité.
Bon, tu les évites alors. et puis aussi, je ne savais pas que ça se pratiquait même sur plusieurs jours l'hiver. En fait, les gîtes sont ouverts.
Oui, et puis il y a des cabanes. C'est vrai qu'on est quand même assez bien fourni dans le Vercors pour aller
des cabanes qui passent bien l'hiver, quoi.
Bien sûr, ouais. Il y a des refuges. Le classique Chaumayou, qui est un point de ralliement quand on fait des traversées sur le Vercors, qui a été rénové récemment, là, qui est tout neuf, qui est bien isolé. Moi, ça m'est arrivé en faisant un peu chauffer le poil. On était nombreux, on se finit en t-shirt. Hein, il est fait vite 20 degrés à l'intérieur. Et puis il y a d'autres endroits, et puis effectivement il y a des gîtes, on trouve des gîtes assez facilement pour pouvoir proposer des itinérances sur plusieurs jours. Avec Vercors Escapade, il y a pas mal d'itinéraires, et il y en a un d'ailleurs qui se propose avec Poulka, donc cette espèce de traîneau qu'on trimballe pour pouvoir porter ses affaires, donc ça permet d'avoir moins de poids sur le dos, et ça permet de une autonomie intéressante pour aller traverser ces fabuleux paysages. On a l'impression d'être mieux nulle part.
La Poulka qui rend accessible aussi ces itinéraires aux personnes à mobilité réduite.
Aussi, voilà.
Ouais, c'est cool. Alors, sortie raquette, maintenant, une fois qu'on est parti, alors par exemple, sur le plateau de Beur, tu parlais d'observer des traces. Qu'est-ce qu'on observe?
Ah bah alors le gros classique du plateau de Beur, c'est les traces d'écureuil, hein, ce petit animal qui reste actif l'hiver et qui laisse des petites empreintes assez caractéristiques dans la neige, que ce soit ses empreintes de pas ou que ce soit ses restes de repas, de grignotage de pommes de pin. Et puis voilà, quand on est là aux bonnes heures, on a des fois même la chance d'observer l'animal. Ça fait partie des animaux classiques. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer assez facilement des renards et des campagnols, mais c'est vrai que le plus courant, celui que j'ai plus souvent vu en promenant en hiver, c'est l'écureuil. C'est quand même
pas trop farouche.
Non, ça dépend des endroits. C'est sûr qu'au milieu de la forêt, dans les endroits un peu escarpés, ils ont moins l'habitude de voir passer du monde, donc ils partent plus facilement. Après, à proximité des villes, ils viennent presque nous manger dans la main. Enfin, en tout cas, ils s'approchent assez facilement des habitations. Ouais.
C'est quoi son prédateur à l'écureuil? Question annexe, comme ça.
Bah,
pour ma culture.
Son plus agile, c'est la martre. Hein, c'est,
la martre, ouais.
Ouais, la famille des Mustélidés, c'est assez impressionnant. Elle est capable de courir aussi vite que lui dans les branches et de le chasser sur son terrain. Quoi.
Et donc, elle y est, elle?
Ouais, martre. Martre, c'est plutôt à l'étage culinaire. Après, en belette, hermine, un peu plus sur les hauteurs. Ouais. L'hermine qui a cette capacité de changer de couleur, donc qui se fond dans la neige, qui a plus que le bout de sa queue qui devient noir. Donc c'est vraiment des animaux qui sont adaptés à vivre dans des milieux enneigés l'hiver.
Et pareil, on peut les observer un peu, ou au moins leurs traces
Pareil, près des cabanes, près des refuges, ouais. C'est souvent, on voit leurs traces plus que les animaux, mais ouais, souvent on a des hermines qui squattent les cabanes, ouais. Alors c'est intéressant de voir comment les animaux passent l'hiver, en fait, il y a ceux qui viennent ici que pendant la bonne saison, et puis qui se barrent rapidement au soleil, voir si la misère est plus facile au soleil.
Le percnoptère, par exemple.
Le percnoptère, oui, tout à fait, voilà. les hirondelles en sont aussi un exemple très symbolique. Après, il y a des animaux qui vont s'endormir. Voilà, on va s'endormir pour les mois d'hiver, comme ça on est tranquille, on n'a pas trop de questions à se poser. Bon, la classique marmotte qui dort 6 mois par an, c'est pas mal. Surtout que si on fait le calcul qu'elle dort aussi normalement à peu près 12 heures par jour, elle dort les 3/4 de l'année en temps complet.
9 dixièmes de sa vie.
C'est ça.
Le chat est pas mal, hein, là-dessus.
Le chat est fort aussi. Hein.
Il est fort aussi, ouais.
C'est quand même des belles vies. Et donc, on a le hérisson, on a la plupart des amphibiens qui hibernent. Alors la différence sémantique entre hiverner et hiberner, c'est justement le fait que l'animal qui hiberne s'endort et reste dans un semi-coma, même s'il y a des phases de réveil, de semi-réveil pour quand même aller uriner de temps en temps. Une fois tous les 3-4 jours, la marmotte se réveille, mais c'est une espèce de somnambulisme en fait, elle n'est pas vraiment consciente. Son corps lui dit d'aller faire dans la pièce d'à côté pour éviter que dans le dortoir ça devienne un peu invivable. Par contre, hiverner, c'est le fait de rester semi-actif. Voilà, on ralentit son rythme de vie, on ralentit son métabolisme, mais on est quand même obligé quotidiennement d'aller se nourrir. L'exemple pour ce qui est du plateau du Vercors, c'est le tétralyre, cet animal qui est quand même assez sensible au dérangement, qui gîte sous la neige, donc qui se cache dans des trous de neige et qui est protégé.
Du coup, il est à zéro, là.
Voilà, il est protégé du froid, il est bien isolé sous la neige. Mais il est très sensible, justement, au dérangement. Donc, c'est là de faire le lien un peu avec l'activité raquette, c'est intéressant de se dire qu'il y a quand même certaines zones, et il faut bien se renseigner, justement, il y a des cartes qui sont produites sur le site du parc naturel des Vercors, et d'éviter d'aller marcher dans ces endroits-là. Enfin, c'est plus qu'éviter, il ne faut pas y aller, pour ne pas déranger cet animal, parce que, voilà, il a son rythme qui est au ralenti, il est tranquille dans son gîte, et si on le fait se lever et s'envoler, donc fuir, on provoque déjà un gros stress. On l'oblige à lutter contre le froid parce qu'il était tranquillement à zéro ou même 1 ou 2 degrés au niveau de son couvert. Et puis il se retrouve à moins 10, moins 15 si les conditions sont un peu sévères. Donc déjà, il faut qu'il lutte contre le froid. Il faut qu'il retrouve un autre gîte. Donc la somme de ces conséquences peut faire qu'à terme, s'il est dérangé 2-3 fois dans l'hiver, il ne va pas survivre parce qu'il n'aura pas assez de réserve. Donc ça, c'est hiverner, voilà, c'est on s'endort pas, on ralentit son métabolisme, on se repose plus. L'écureuil aussi hiverne. Et puis donc après, la stratégie c'est d'avoir un peu des réserves. L'écureuil est assez symbolique pour ça.
Il stocke partout.
Ouais, j'ai lu des trucs un peu contradictoires. Il y en a qui disent qu'il serait un peu étourdi, qu'il stockerait plein de choses et puis qu'en fait il en oublierait. Il y en a qui pensent qu'en fait il est très prévoyant, qu'il stocke plus que ce qu'il a besoin et donc du coup, mais voilà, l'intérêt, on le connaît bien, il planque des graines, mais du coup il les sème et ça permet aux arbres d'être dans des conditions favorables pour la germination ensuite. Voilà, donc des différentes stratégies intéressantes pour les animaux de survivre au froid et de passer la mauvaise saison.
Alors ça, c'est quelque chose que tu amènes dans le cadre de ces sorties raquettes spontanément aux personnes, ou est-ce que tu leur as quand même déjà, un peu vendu le fait qu'on allait parler, voir peut-être des animaux?
Bah, ce que je vends, je vais pas dire avec obligation de résultat, c'est l'observation des traces, parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est quand même assez facile d'observer des traces, que ce soit au moins des traces des restes de repas. Après, observer des animaux, ça reste assez aléatoire, à part effectivement, on parlait de la sortie vautour l'autre jour où j'ai quasiment 100%, j'y suis retourné l'autre jour, il y a 2 jours, j'y suis retourné, on a vu 100 vautours qui sont dû se poser dans le champ devant nous, donc là, c'est magique. Les autres, c'est quand même un peu plus aléatoire. Il n'y a pas de raison qu'ils viennent spontanément parce qu'ils sont nourris ou parce qu'il y a un lieu de rassemblement. Donc, je ne peux pas promettre qu'on va voir des animaux dès qu'on va aller se promener dans la nature.
Alors, quelles sont un peu les idées reçues sur ces animaux qu'on aurait envie de voir? Est-ce qu'on te demande systématiquement des choses? Le loup, par exemple, hein.
Ben, j'ai observé des traces de loup l'hiver dernier. Moi, j'étais dans l'expectative de déterminer ces traces, et puis peu de temps après j'ai rencontré un éco-garde du parc qui m'a confirmé que lui aussi les avait vues, donc je pense effectivement avoir vu des traces de loup. C'est effectivement des traces assez caractéristiques et ça paraît un peu magique, quoi. On se dit voilà, on est passé dans les pas de cet animal mythique.
Tu voulais qu'on revienne aux animaux qui changent de couleur?
Ben, c'est intéressant ces animaux parce qu'on appelle ça des reliques glaciaires. Ce sont des animaux qui ont été poussés par les glaciations vers le sud. C'est des animaux qu'on trouve au niveau de la mer plus au nord, en Suède, en Norvège. Voilà, on parlait du tétralyre, le lagopède qu'on appelle la perdrix variable, qui est toute blanche l'hiver et qui devient plutôt marron l'été, donc qui se camoufle, voilà, qui a une tenue de camouflage adaptée aux conditions de son environnement. On a noté qu'elle avait été poussée donc au moment des grandes glaciations à venir pratiquement se baigner au bord de la Méditerranée. Et puis quand les glaciers se sont retirés, ont fondu, elles ont trouvé ces espèces refuge dans des tranches altitudinales où elles ont retrouvé les conditions qui leur étaient favorables. Donc le lagopède, par exemple, au-dessus de 2000, voilà, il y est bien, il a le temps d'enneigement suffisant qui correspond au temps où il est blanc, etc.
Donc c'est pareil pour l'hermine, tout ça, c'est des animaux qui
voilà,
ont...
le lièvre variable, le lièvre polaire, on pourrait dire. Voilà, ce sont tous des animaux qui vivent au niveau de la mer un peu plus au nord et donc qui sont restés prisonniers, en quelque sorte, dans nos montagnes, dans la tranche altitudinale qui est la leur. Et aujourd'hui, bah, avec le changement climatique, ils grimpent de plus en plus avec leurs petites pattes, mais il y a un jour où ils ne pourront pas aller plus haut. Donc voilà, le lagopède est en train de disparaître. En tout cas, dans le Vercors, j'ai essayé de trouver des données. Les plus récentes que j'ai trouvées, c'est des années 2000. Donc je ne sais pas, je ne veux pas affirmer qu'il n'y en a plus, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé, en cherchant un peu sur Internet, de données récentes le concernant.
C'est une grande question, effectivement. Et donc, le tétralyre, lui, il est a priori plus adapté au secteur. C'est pour ça qu'il a été réintroduit.
Alors, le tétralyre, je ne crois pas qu'il ait été réintroduit. En tout cas, je ne l'affirmerai pas.
Il y a des programmes de.
Il y a des programmes de suivi, de maintien des populations. La réserve des hauts plateaux a été créée autour de cet animal, au départ. C'était la raison pour laquelle on a créé cette immense réserve, c'était pour protéger cet animal. C'est pas pour rien que c'est l'emblème du parc, le tétralyre.
Bon bah voilà, je disais une grosse connerie. Tu parles aussi du manteau neigeux, de ses spécificités. Et ça, c'est intéressant.
Bah, voilà, c'est vrai que c'est des questions qui sont intéressantes à aborder. Déjà, comprendre comment la neige se forme, comment elle évolue et à quel moment elle devient instable et par rapport au risque avalanche. Donc déjà, savoir diagnostiquer les sites potentiellement avalancheux.
Alors comment? Vas-y, donne-nous
deux. La règle, elle est simple. Hein, en dessous de 30 degrés de pente, il y a très peu de risques. À part vraiment quand la neige est très très légère et très fluide, il peut y avoir des petites coulées. Donc si on ne s'aventure pas sur des pentes supérieures à 30 degrés, c'est quand même assez rare en raquette. On n'est pas dans des zones exposées. Et puis après, ben, y a la transformation de la neige qui fait que suivant les manteaux, donc là, faut voir les choses et faut montrer un peu des croquis, mais la neige, elle tombe, elle apparaît sous forme de cristaux. Les fameux cristaux qu'on connaît de flocons de neige très caractéristiques à 6 branches, et il y en a différentes formes. Mais une fois qu'elle est au sol, elle va, suivant la couche, l'épaisseur de la couche, on va imaginer qu'on a 20 cm de couche par exemple, comme elle a une capacité un peu à isoler, il va y avoir une différence de température entre le haut et le bas. Le sol, on va dire qu'on est autour de 0 degré, et puis au-dessus, on va avoir moins 10 degrés. Et ce gradient de température va faire des mouvements de vapeur d'eau à l'intérieur du manteau neigeux. Et ces mouvements de vapeur d'eau vont faire que petit à petit, les cristaux vont changer de forme et vont se transformer de flocons qui vont s'agréger avec des petites dendrites qui s'intermêlent les uns les autres et qui font que c'est stable, en petites boules. Et ces petites boules sont totalement...
Ah, même en glace sur la partie parties herbées, là, ça glisse très très vite.
C'est ça, ouais.
Plaque
c'est les formes engobelées liées à la transformation. Et c'est vrai que ça fait un beau tapis roulant, voilà. Et la connaissance du manteau neigeux, voilà, c'est une étude que quotidiennement les pisteurs secouristes font. Ils coupent le manteau neigeux avec la pelle, et ils regardent les différentes couches et ils voient comment ces couches évoluent. Et voilà, c'est important d'avoir cette vision, de savoir qu'on peut très bien avoir une belle neige au-dessus qui paraît toute jolie, toute bien. Et puis en fait, en dessous, il y a quelque chose de très instable qui va faire que...
Du coup, on peut carotter aussi avec toi un petit peu.
Ouais, je fais ça, bien sûr. Ouais, c'est une activité intéressante. On balance 2-3 coups de pelle et puis on voit le transect du manteau neigeux.
Il y a beaucoup de risques ici dans le secteur concernant les avalanches. Alors en balade raquette, tu disais non, c'est un peu exclu parce qu'effectivement, ouais, après, on a tendance à marcher plutôt sur du plat, mais.
Bah, il y a des zones qui sont connues, hein, les pentes un peu exposées de l'autre côté, au sud du col de Rousset. Après, dans notre région, il y a aussi les pentes du côté du col de la Bataille qui sont très connues pour être avalancheuses. Voilà, ces endroits, faut pas y aller. Ben, je pense qu'il n'y a pas de raison d'y aller à part pour jouer, mais voilà, s'il n'y a pas beaucoup de neige, moi ça m'est arrivé de faire le roc de Toulouse avec 10 cm de neige, bon ben voilà, on y va, il n'y a pas de problème. Après, s'il y a trop de neige, ça devient un peu joueur, quoi.
Ouais. Alors là, c'est quand même des risques à ne pas négliger. Il y en a tous les ans régulièrement, des personnes qui passent sous les avalanches. Bon, c'est pas trop dans notre secteur. Mais...
Ben, voilà, moi, j'ai un pote d'escalade qui s'est fait embarquer par une coulée sur le Grand Vémont, en ski de rando. Il a laissé une cheville, voilà. Bon, il s'en sort bien, il n'y a pas eu de séquelles, mais ça a été un peu invalidant pendant quelques temps.
Ouais, si ce n'est qu'une cheville. Mmh. Le Grand Vémont, justement, oui, il est quand même pas mal exposé, lui.
Il est surtout exposé aux plaques avant, ouais, du fait de sa position par rapport au Mistral. Ouais.
La flore.
La flore. Ben oui, c'est intéressant aussi de s'intéresser à comment ces plantes réussissent à supporter l'hiver. Donc, ben, y a celles qui sont annuelles, voilà. Elles vivent le temps d'une saison, elles se dépêchent de faire leurs fleurs, leurs graines, et hop, la graine tombe dans la terre et elle va attendre que les conditions soient meilleures. Et en plus, il y a un phénomène qu'on appelle la vernalisation qui fait que ces graines ont besoin de geler pour pouvoir avoir un bon potentiel germinatif. Si elles ne gèlent pas, elles ne sont pas capables de pousser.
C'est fou, ça.
Encore une façon de s'adapter à leur environnement.
Du coup, prisonnières de la montagne, elles aussi.
Elles sont prisonnières. Ouais. Voilà, elles aussi, avec le changement climatique, elles vont devoir courir vers le haut et avec leurs petites pattes, mais le problème, c'est qu'elles n'en ont pas. L'autre stratégie, c'est la stratégie bulbe. Voilà, le crocus en est un bon exemple. Pendant la bonne saison, on fait des réserves dans un bulbe, dans un oignon. Hein, et puis, voilà, dès que les conditions sont un peu moins bonnes, hop, on coupe les parties aériennes dessèchent et meurent. Mais par contre, le bulbe qui est sous terre et qui potentiellement même est protégé par le manteau neigeux, on parlait de la capacité d'isolant de la neige, ben elle est tranquille. Le bulbe reste tranquille toute la mauvaise saison. Et puis, quand les conditions reviennent, tout est là, tout est prêt. Ils sont sur les starting blocks. Et dès qu'il y a un peu de rayon de soleil qui chauffe le sol, voilà, c'est vraiment très caractéristique. Hein, les crocus, ils sont vraiment un indicateur de là où était la neige 2-3 jours avant, quand on commence à se promener au printemps. On les voit en front de neige. Et voilà, 2-3 jours après que les conditions étaient bonnes et que la température dans le sol commence à être suffisante, la fleur sort.
Et la troisième stratégie, c'est d'avoir déjà la structure pour tenir. On pense bien sûr au pin, au sapin. Mais il y en a d'autres, il y a un paquet de buissons là, un peu agressifs qui restent comme ça debout, qui se recouvrent même de neige, mais bon, c'est pas grave.
Ouais, ils vivent au ralenti, ils sont capables d'avoir un peu des antigels dans les feuilles, donc ils arrivent à supporter des gros écarts de température. Après, ils sont quand même beaucoup plus secs, hein, ils perdent pas mal d'eau l'hiver pour éviter justement le gel. Et après, bah, l'autre stratégie des feuillus, c'est de perdre leurs feuilles. Hein, voilà, le hêtre.
Pareil, du coup, ils hibernent.
Ils hibernent, ouais, voilà. Ils s'endorment à la mauvaise saison et ils se réveillent au printemps.
Une activité raquette, il faut être quand même un petit peu équipé. On va dans le froid.
Ouais, faut être quand même susceptible de se protéger du froid. Après, ce qui est assez compliqué avec ces activités l'hiver, c'est qu'on peut passer d'un extrême à l'autre. On part le matin, il fait moins 10, on s'équipe, et puis on commence à marcher. Au bout d'une heure de marche, il fait déjà 5-6 degrés. En marchant, on a l'impression qu'il en fait 30. Donc, il faut avoir des tenues un peu modulables. Je pense que c'est important.
Vêtements techniques, tout ça.
Voilà, ouais.
Et après, au niveau des pompes pour la raquette, hein, c'est...
Ouais, pompe de marche...
En fait, ça s'adapte sur n'importe quelle chaussure.
Ouais, bien sûr.
Ouais, mais bon, on vient pas en basket, claquette.
Ouais, il faut quand même des pompes de marche qui supportent de pas être trop mouillé, quoi. Voilà. Ouais. Étanche, je vais chercher le mot.
Et le bâton, hein? Il en faut là.
Ouais, là, ouais, c'est quasiment impossible.
C'est la dette du bâton, toi.
Ouais. Bah évidemment, encore plus avec des raquettes, parce que là, on a besoin de pouvoir s'équilibrer, on a besoin pouvoir aussi se soutenir en descente ou en montée. Donc là, faire des raquettes sans bâton, ça devient un peu impossible, quoi.
Où est-ce qu'on s'inscrit ? C'est avec Vercors Escapade ?
Ouais, bah on peut appeler Vercors Escapade, on peut m'appeler au numéro que tu vas laisser sur le site, comme d'habitude.
Comme d'hab, voilà.
et après, voilà, moi je propose les sorties sur le site Ensemble Ici. Donc voilà, faire une petite veille sur le site Ensemble Ici. J'en ai pas proposé encore pour l'instant parce que déjà je rentre de congé et puis la neige n'était pas encore trop au rendez-vous. Mais à partir de maintenant, dès que les conditions seront bonnes, je vais proposer des sorties sur le site Ensemble Ici.
Merci Sébastien.
Merci Baptiste,
à la prochaine.
C'est toujours un grand plaisir.
Ouais. Oui.
Bonne journée à toi.